Dieu était un peu différente. J'ai toujours fait des lectures systématiques de toute la parole, mais je pense que j'ai mesuré qu'il y avait quelque part une fin professionnelle. C'est-à-dire qu'en lisant la parole, j'étais toujours en train de me dire, tiens, ça peut faire l'objet d'un beau message. Et cette année, j'ai été libéré de ça. Je lis et j'ai découvert, si vous voulez, une autre dimension de la parole de Dieu, où elle me nourrissait peut-être plus moi que dans la perspective de nourrir les autres. Et j'ai surtout beaucoup lu et relu un chapitre que je voudrais partager avec vous ce matin, qui est le chapitre 8 du livre du Deutéronome. Et vous savez que ce livre du Deutéronome, le thème central, c'est de ne pas oublier ce que Dieu a fait dans nos vies. Alors, si vous voulez bien, on va aborder ce texte. Je ne vais pas en faire la lecture parce que ça nous prendrait trop de temps. J'ai la réputation d'être un assassin, c'est-à-dire un prédicateur qui prêche plus de 40 minutes. J'ai été prof pendant 10 ans dans ma vie. Vous savez, les cours, ça dure 55 minutes. Et j'ai toujours tendance à prêcher 55 minutes. Alors, rassurez-vous, votre poulet, j'espère qu'il ne sera pas trop cuit. Et c'est pour cela que je ne lirai pas le texte. Rappelez simplement ce qu'est le Deutéronome, vous le savez. C'est le cinquième livre de la Bible. Et c'est le rappel. C'est le rappel de tout ce qui a été écrit précédemment, sauf la Genèse. Et une particularité du Deutéronome, c'est que Moïse s'adresse au peuple à la première personne du singulier. Je vous dis, je vous répète, je mets les choses en point. Et ça va être le support de notre réflexion, mais on ne va pas s'arrêter là. On va voir comment ce texte s'applique aujourd'hui pour nous dans nos vies. Alors, je vais, dans ce texte que je ne vais pas lire entièrement, mais je vais citer simplement quelques passages, il y a deux parties. La première partie qui va du chapitre du premier verset jusqu'au verset 7, où Dieu rappelle, ou Moïse plutôt, rappelle ce que Dieu a fait dans la vie des Israélites. Et juste quelques versets. Le premier verset nous dit « Vous observerez pour mettre en pratique tous les commandements que l'Éternel te donne. » Je passerai assez vite sur le texte, on tâchera d'en faire une application tout à l'heure pour nous. Oh là, c'est bien ici. Tu sais, je t'avais demandé de me donner des versets, mais je me suis dit, ça va être la technique trop compliquée pour moi. Alors, c'est super. Verset 2. « Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel t'a fait pendant ces 40 années où tu as marché dans le désert. » Et là, Moïse rappelle des choses importantes, il rappelle la manne, et c'est l'occasion de rappeler ce que Jésus dit en Matthieu 4:4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et je pense que je reviendrai encore tout à l'heure sur l'importance de la parole, l'importance de la lire et de la méditer, et surtout de la mettre en pratique. Et il rappellera que le peuple a été nourri miraculeusement par la manne. Il rappellera que les sandales ne se sont pas usées, que les pieds ne se sont pas enflés. Et puis, il demande, le mot sur lequel je voudrais m'arrêter, « reconnais ». Reconnais que Dieu a agi puissamment dans ta vie, et c'est ce que nous reverrons tout à l'heure. Et puis surtout, une nouvelle fois, tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et le craindre. Observez les commandements, observez la parole de Dieu. Puis la deuxième partie du texte, je vais passer assez vite, c'est maintenant les nouvelles perspectives. Les nouvelles perspectives, c'est le peuple qui va rentrer dans la promesse que Dieu a faite à Abraham, d'entrer dans ce pays où coule le lait et le miel, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, de pays d'oliviers, de miel, pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, on est à l'âge de fer, je vous rappelle, et des montagnes duquel tu extrairas du bronze. Et est-ce qu'on peut imaginer un peu ce que se représente ce pays par rapport au désert dans lequel les Juifs, le peuple hébreu, a erré, malgré la description qu'on avait fait en nombre 13 et 14, les fameux espions que Moïse avait envoyés. Tu mangeras et tu te rassasiras, mais tu n'oublieras pas une chose, tu n'oublieras pas de bénir l'Éternel, ton Dieu. Et là, c'est vraiment le cœur de mon message. Garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier au point de ne plus suivre les commandements de Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. Un peu plus loin encore, prends garde. Et là, il y a dans le prend-garde, il y a une décision, il y a une volonté de ne, c'est une veille particulière de ne pas oublier, de peur que ton cœur ne se lève et que tu oublies l'Éternel, ton Dieu. Il y a une vraie crainte de la part de Moïse que ce peuple oublie l'Éternel, ton Dieu. Le peuple, c'est un thème qui revient constamment dans la parole de Dieu, ce Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, du pays de la servitude. Et quand vous êtes des lecteurs habituels de la parole de Dieu, vous allez voir que c'est un thème qui revient souvent. Dieu créateur du ciel et de la terre, et en même temps le peuple qui a libéré son peuple de la servitude, de la maison d'Égypte. Et puis, verset 17 encore, « Garde-toi de que ton cœur ne s'enfle d'orgueil lorsque tout va aller bien dans ta vie. » ma force et ma vigueur, la vigueur de ma main, moi qui ses richesses. Et tu te souviendras à ce moment-là que tout est don de Dieu. Tu te rappelleras que tu te souviendras que l'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Et puis, fin du texte, une mise en garde sévère de Dieu si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu te rallies à d'autres dieux, si tu le rends un culte et tu te prosternes, je vous atteste, vous périrez. Alors, nous sommes évidemment plus sous l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament. Dans ce texte, d'ailleurs, la bénédiction apparaît, qu'on retrouve en Deutéronome 28, la bénédiction matérielle est le signe de l'approbation de Dieu, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, bien entendu. Dieu peut bénir de toute façon, mais il nous bénit surtout par la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. On est un peu loin de l'évangile de la prospérité, là. Voilà, donc, et qu'est-ce que vous en pensez de ce texte? Est-ce que Moïse a été entendu? Est-ce qu'il a été écouté? Ben, si vous connaissez un peu l'histoire du peuple d'Israël, vous savez que quand il va rentrer dans le pays d'Égypte, dans le pays de la terre promise, il va être fidèle à Dieu tant que Josué va vivre. C'est le chapitre 2, je crois, du livre de Josué. Et après, l'histoire de ce peuple, ça va être l'histoire d'une prostitution spirituelle avec les autres dieux, les Baals, les Astartés et tout le reste. Et cela jusqu'à quand? Jusqu'à, bien entendu, la déportation à Babylone en 587-586. Suite à partir de ce moment-là, le peuple ne sera plus idolâtre, mais tombera dans la religiosité, comme chacun le sait. Alors aujourd'hui, si vous voulez, est-ce que ce texte nous parle? Alors je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment le sentiment que dans cette église, il y a un sentiment de reconnaissance. Je n'avais pas ça chez moi. Je trouvais que mes chrétiens étaient toujours peut-être un peu mous. Peut-être manquant de reconnaissance. J'avais beaucoup de mal à obtenir un temps de louange. C'était toujours deux ou trois qui priaient, mais ce n'était pas cette spontanéité pour laquelle j'ai béni Dieu ce matin. La certitude, c'est que vous avez un meilleur pasteur que je n'étais. Et amen. Et je pense en plus. Mais est-ce que... Et je pense que vous êtes reconnaissant, peut-être que j'avais une image un peu fausse du peuple de Dieu, mais je crois que quand même le Seigneur m'avait mis ce message sur mon cœur, et je crois que je vais vous le dire. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes concernés par cela? Est-ce que nous sommes concernés par le risque d'oublier? Ben, écoutez, moi, l'expérience qu'on a faite cette année, pendant cette année, c'est que on a jamais oublié Dieu, on ne s'est jamais détourné de Dieu depuis notre conversion qui remonte... il y a très longtemps, comme vous pouvez le savoir. Mais en fait, peut-être qu'à un moment donné, quand même, on prend l'habitude de vivre avec Dieu, et puis c'est normal, et puis on perd cette sensibilité peut-être de la connexion avec Dieu. Et c'est peut-être votre cas. Et puis en même temps, nous sommes des hommes de la même nature, je plagie Jacques là, que ces gens de l'Ancien Testament qui... Et puis la Bible nous fait état aussi de gens qui se sont détournés de Dieu, qui ont oublié Dieu. Alors... je crois qu'on a vraiment besoin. Je le fais non pas parce que je constate chez vous qu'il n'y a pas de reconnaissance, bien au contraire, mais parce que je crois que Dieu veut nous mettre en garde, justement, d'oublier. Et j'espère que les paroles que j'ai prononcées ce matin seront plus entendues par vous que celles que Moïse a prononcées, parce que Moïse, finalement, c'est triste pour lui, pour sa mémoire, de voir comment le peuple de Dieu s'est détourné de la vérité de sa parole. Alors, de quoi doit-on se souvenir, à votre avis? La première chose dont on doit se souvenir, et je pense que c'est une chose qui est avec peut-être des années de conversion, des années de vie chrétienne ont tendance à s'atténuer, notre salut. Alors ici, j'ai apprécié vraiment qu'on a remercié Dieu pour la vie éternelle, pour notre salut. Mais je fais toujours référence à mon expérience pastorale. Combien de fois j'ai pas vu les chrétiens surtout focalisés, hein, peut-être que j'ai un jugement sévère, focalisés par ce que Dieu pourvoit leurs besoins, que Dieu guérisse, que Dieu leur donne du travail, que Dieu remplisse leur compte en banque. Hein, et combien c'est important de rappeler que la chose la plus miraculeuse, la plus fantastique, la plus belle que Dieu a fait, c'est qu'il nous a assuré un salut éternel. Et je crois qu'on a vraiment besoin de se rappeler. On a besoin de se rappeler la croix. On a besoin de se rappeler, on a besoin de se rappeler le sacrifice de Jésus, ce mystère de l'incarnation. Jésus venu comme simple homme qui a souffert sur la terre. Il n'avait pas un seul endroit pour poser sa tête. Il a été, vous connaissez bien l'histoire des trois derniers jours de la vie de Jésus. Comment le Fils de Dieu a-t-il accepté cette condition-là ? Véritable homme. C'est dans l'évangile de Luc où il est dit qu'il a eu besoin de la visite d'un ange pour venir l'aider à passer ce cap. Est-ce que vous imaginez cette souffrance, la souffrance qu'il a pu éprouver ? Des grumeaux de sang, on sait aujourd'hui que l'angoisse peut provoquer des grumeaux de sang. Et puis, la crucifixion, le Fils de Dieu injurié, crucifié. Et puis, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il a été fait péché pour nous, qu'il a été séparé du Père. Mais gloire à Dieu, il est ressuscité. Est-ce qu'on peut se rappeler ? Est-ce qu'on peut, tous les jours, hein, et je crois qu'on a un effort de mémoire à faire en permanence, se rappeler ce que Jésus a fait pour nous dans nos vies. Alors, on pourrait y passer beaucoup plus de temps, hein, mais je voudrais aborder un deuxième point. De quoi faut-il se souvenir encore ? Eh bien, ce que Moïse rappelle aux Israélites, rappelez-vous le chemin que vous avez parcouru avec Dieu. Vous savez qu'on peut... Allez, moi, je suis comme ça. Hein. On peut oublier les bénédictions de Dieu dans nos vies. On est très heureux. Annette et moi, après, on est très amoureux après 48 ans. Qu'est-ce que je raconte ? 54 ans de mariage, vous voyez, c'est l'âge. Hein. Je commence à me mélanger dans les dalles, les premiers signes de sénilité. Mais est-ce qu'on oublie qu'après 10 ans de mariage, alors qu'on s'aimait profondément, notre couple avait tendance à se déchirer, et que par grâce la conversion est intervenue, et que Dieu a complètement reconstruit ce qui était en péril. Et aujourd'hui, avec le recul, on peut se dire, peut-être qu'on ne serait plus ensemble aujourd'hui, sans doute qu'on ne serait plus ensemble aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu cette intervention miraculeuse de Dieu dans notre vie. Miraculeuse parce qu'il a changé nos cœurs, il a fait de nous de nouvelles créatures. Et tout ça, et je vous dis, l'exercice spirituel qu'on fait cette année, c'est de se rappeler constamment ce que Dieu a fait. Essayez. Alors, si vous êtes en couple, essayez de le faire. Si vous êtes seul, prenez un papier, un crayon, hein, ou les deux, et faites en sorte de vous rappeler ce que Dieu a fait dans nos vies, pour ne pas oublier, pour ne pas être des ingrats. Qu'est-ce qu'on peut encore oublier ? La parole de Dieu. Je ne sais pas si... Peut-être que j'ai encore une mauvaise impression, mais j'ai l'impression que les chrétiens lisent de moins en moins la parole de Dieu. On va suivre un prédicateur sur une chaîne YouTube. Hein, moi, je fais aussi. Mais on va écouter des chants de louanges. Hein, mais l'expérience pastorale que j'avais, c'est que la lecture de la parole de Dieu, tu lis la parole, c'était toujours la question que je posais. Hein. Oh ben, mais ici, ça se passe pas comme ça, parce que pour la bonne raison que c'est vous avez un très bon pasteur. On m'en parlait tout à l'heure du pasteur, d'ailleurs. Mais c'était toujours le sentiment que j'avais. Oui, je la lis, tu la lis tous les jours. Oh ben non, pas tous les jours. Tu lis, quand tu lis, oh ben, je lis un chapitre. Oh ben. en lisant un chapitre tout par semaine, hein, je peux vous assurer qu'il faut du temps pour lire la parole de Dieu. Et la prédication que vous écouterez sur YouTube ne remplacera pas le contact avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Et on a besoin de se battre avec le texte. Et après des années de prédication, des années, moi, chaque fois que je lis un texte, hein, je découvre quelque chose. Je découvre quelque chose et ça nous fortifie. Alors, ne pas oublier sa parole aussi, parce que tout cela, ce sont des raisons qui vont nous écarter, nous faire nous écarter de Dieu. Et puis, la Bible nous dit également, hein, de ne pas oublier nos conducteurs spirituels. Alors, j'ai jamais prêché ça dans mon église parce que j'avais l'impression de me mettre un peu sur une estrade surélevée. Mais je pense que dans une église dans laquelle je suis invité, c'est aussi n'oubliez pas. Souvenez-vous, dit Hébreux 13, 7, souvenez-vous de vos conducteurs spirituels. Et la première épître aux Thessaloniciens nous dit, ayez de la considération pour eux. Parce que, vous savez, le métier de pasteur, ce n'est pas un métier facile. Vous savez, on est... Vous allez dire que je suis pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste. Hein. Je suis réaliste. On est quelquefois trahi. On est quelquefois abandonné. On est généralement critiqué. Alors, ayez de la considération pour ceux qui vous apportent ce service, tous ceux qui participent au service. Bénissez-les, priez pour eux, parce que ce ne sont pas des surhommes. On n'est pas des surhommes. Les pasteurs sont des hommes ou des femmes de la même nature que les autres. Et qu'on passe aussi par des moments de découragement. Il y a des jours où je n'ai pas envie de lire la Bible. Allô ? Il y a des jours où je n'ai pas envie de prier. Ce qui est important, c'est de ne pas rester dans ces situations-là. Mais la vie d'église, c'est pas un long fleuve tranquille. Et vos conducteurs spirituels ont véritablement besoin d'être soutenus. Alors, ce n'est pas un message téléguidé. Hein. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit quand je l'ai appelé ce matin au téléphone. Hein. Je vous rassure que c'était écrit avant. Alors, quand est-ce qu'on a des risques d'oublier, à votre avis ? Ben, je dirais tout le temps. Mais en général, hein, lorsque les choses dans nos vies vont bien. Tu es d'accord ? Lorsque les choses vont bien, lorsqu'on est en bonne santé, hein, on a été malade, mais le Seigneur a posé sa main, on est guéri. Lorsque les enfants sont gentils, ils ont passé la cape de l'adolescence. Hein, lorsque les finances sont en bon état. Quelquefois aussi, c'est généralement la situation la plus habituelle, aussi quelquefois quand les choses vont mal, hein, parce qu'on pense à ce moment-là que Dieu nous a abandonnés. Hein, et je n'ai pas lu ce passage-là tout à l'heure, mais dans le livre du Deutéronome, Moïse rappelle que Dieu a humilié le peuple, l'a fait souffrir dans le désert, hein, pour le fortifier. Quelquefois, l'épreuve de Dieu, elle est pédagogique pour que nous puissions grandir et prendre de l'étoffe spirituelle. Mais quelquefois, on voit aussi ce type d'abandon de la foi. Hein, et il y en a quand même un certain nombre. Alors, la Bible nous parle de gens qui ont abandonné la foi. Hein, à Timothée, la deuxième. Paul nous dit que Philèle et Hermogène l'ont abandonné, ceux d'Asie m'ont abandonné. Et puis surtout, à la fin de l'épître de Timothée, vous savez, la deuxième épître, c'est là où Paul nous dit quand même qu'il a combattu le bon combat, qu'il a achevé la course et qu'il a gardé la foi. Et c'est vraiment la prière que je fais pour chacun de nous, qu'à la fin de nos vies, nous, on approche, hein, vous peut-être moins, mais on approche, hein, qu'on puisse dire j'ai gardé la foi, j'ai remporté la victoire, la couronne de gloire m'est réservée. Ça, c'est quand même la chose la plus magnifique qui puisse nous arriver. Mais il nous dit aussi que Démas l'a abandonné. Hein. Et pourquoi Démas l'a abandonné ? Par amour du monde. Hein. Et la tentation du monde est, pour les chrétiens, quelquefois, un piège également, hein, pour amour, et qu'il est retourné à Thessalonique. Or, Démas, c'est pas n'importe qui. Démas... C'est un disciple qui a accompagné Paul, qui est signataire de deux lettres, l'épître aux Colossiens et l'épître à Philémon. C'était donc un proche de... Enfin, co-signataire. C'est donc un proche de Paul. Ça veut dire que même des hommes qui ont partagé le privilège de ce ministère avec Paul sont aussi capables de, de s'éloigner de Dieu, et ou carrément de rompre avec Dieu. Moi, j'ai malheureusement vu dans ces nombreuses années de responsabilité pastorale, j'ai vu quand même beaucoup de gens qui se sont complètement détournés de Dieu après de belles expériences. C'est que sans doute que les fondements n'étaient pas là et que peut-être. Alors quels sont à votre avis l'antidote à ne pas oublier? Et plus exactement, quelles sont les conséquences? Je verrai les antidotes après. Qu'est-ce qui se passe quand on oublie Dieu? Alors, je ne parle pas forcément de l'oubli complet, des gens qui se sont complètement détournés, mais simplement, peut-être, une conscience moins vive. Une conscience moins vive de ce que Dieu a pu faire dans nos vies. Alors, je pense que les conséquences, elles sont d'abord une vie spirituelle en berne. Une vie spirituelle en berne parce que la reconnaissance, hein, le fait de bénir Dieu, de le remercier, je pense que c'est un carburant essentiel pour la foi. Parce qu'autrement, si on n'a pas cette reconnaissance, je pense que notre relation avec Dieu va peut-être petit à petit se détériorer. Vous savez, moi j'entends des gens qui disent Dieu n'a rien fait pour moi. Des chrétiens qui sont des chrétiens authentiques, hein, qui sont nés de nouveau, hein, et qui disent « Dieu n'a rien fait pour moi ». Oui, bien sûr, allez, j'exagère, il m'a sauvé. Hein. Mais dans la vie actuelle, il n'a rien fait pour moi. Et en fait, on a des gens qui, à ce moment-là, nourrissent de l'amertume, de la mauvaise humeur. Hein. On a eu ce privilège, enfin je ne sais pas si c'est un privilège, de dîner il y a 2-3 jours avec une de mes anciennes paroissiennes, hein, qui visiblement vit plein de choses de bénédiction avec Dieu, mais qui nous a fait, il y avait un autre couple qui nous a complètement gâché la soirée, parce qu'elle faisait la tête, elle faisait la gueule, il n'y a pas d'autre expression, parce que pour un détail, et puis finalement Dieu ne fait rien pour moi. Je pense que le manque de reconnaissance, ça entraîne l'amertume. Ça entraîne peut-être aussi le fait qu'on devient égocentrique, hein, qu'on a besoin de se tourner vers les autres, qu'on a besoin de partager avec les autres. Et puis, qu'est-ce qui peut se passer encore lorsqu'on a une relation moindre avec Dieu? Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, nous dit Matthieu, hein, et toute chose te sera donnée en plus. Matthieu 6, 33 nous dit ça, de chercher le royaume de Dieu et sa justice, et de rechercher donc cette communion avec Dieu. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais l'oubli, ça a été l'histoire du peuple d'Israël, c'est plein d'enseignements pour nous, cette catastrophe d'Israël. Et est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire si on a tendance à oublier un petit peu? Alors, rassurez-vous, c'est pas si on a tendance, on a tous tendance à oublier un petit peu. On a tous tendance et on a vraiment besoin de se rappeler, hein, de se rappeler ce que Dieu a fait dans nos vies. Deutéronome nous dit de veiller. De veiller, c'est une attitude donc volontaire, déterminée, qui nous permet donc d'être attentif et de vérifier ce que Dieu fait dans nos vies. Prendre du temps avec Dieu. Prendre du temps pour avoir un temps de communion, un temps de reconnaissance. Et puis je pense que, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, sans doute que le plus important c'est encore de... C'est pas le plus important, mais c'est... Oui, enfin, on ne va pas établir de hiérarchie, hein. C'est d'être des hommes et des femmes de la parole, de lire la parole et de la mettre en pratique. Heureux ceux qui entendent cette parole et qui la mettent en pratique, dit Jésus. Et il y a 2 ou 3 ans, je constatais en lisant la Bible que ça revenait très très souvent dans la Bible. Et j'ai demandé à un de mes anciens, qui est très doué avec sur l'informatique, moi je suis pas, j'ai pas d'ordinateur, donc ma femme ne veut pas que j'en ai. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu peux me faire une recherche de nombre de fois où il est écrit dans le Nouveau Ancien Testament, mettre en pratique. Et je crois qu'il m'a sorti 10 pages ou quelque chose de référence hein, sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu peut être mise en pratique que si elle est connue, que si elle est lue, que si elle est vécue. Voilà donc, et puis je crois que, comme on l'a fait ce matin, hein, ce temps de remerciement, ce temps de louange dans lequel on se fortifie et où le Saint-Esprit fait une action puissante dans nos vies. Voilà peut-être quelques pistes hein, sommaires de ce que l'on peut dire, de ce que l'on peut envisager. Hein. Je bénis Dieu pour ce temps qui me donne ce matin. Je bénis Dieu pour cette Église qui vibre de reconnaissance, je le répète encore. Hein. Et je crois que, mais quand on est debout, que celui qui est debout prenne garde de tomber, hein, et que ce soit pour vous un encouragement à continuer, à être des disciples fidèles de Jésus, à le servir. Et je proclame vraiment une bénédiction au nom du Saint-Esprit sur cette Église. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et vous enrichisse à tous égards. Amen.